Nous vivons aujourd'hui dans un monde où, au niveau des relations internationales, le droit du plus fort semble le seul droit qui prévaut. Il nous donne l'impression que c'est la violence, l'usage de la force qui fait le droit, et que plus on est fort, violent ou grossier, plus on a la capacité d'employer le morceau. On est face à un système économique aussi qui, sous prétexte de libre-échange, est capable de ravager la situation sociale de nombreux pays, parce qu'on va chercher la main-d'œuvre la moins chère, sans être trop regardant sur les conditions de travail de cette main-d'œuvre, quitte à ruiner la main-d'œuvre qui existait dans le pays qui importe. On a l'impression que notre monde se laisse gouverner par la force et par le désir de profit. Ce qui nous amène à réfléchir, mais y a-t-il une idée, y a-t-il une place pour Dieu? Y a-t-il une place pour Dieu dans notre monde? Et je pose cette question parce que, quand on pose cette question, on comprend que l'Annonciation est une lumière providentielle qui nous est donnée. À l'époque de l'Annonciation, dans ce premier siècle de notre ère, on n'attendait pas beaucoup plus le Seigneur. Alors vous allez me dire, mais on était très religieux à l'époque. Oui, très religieux, mais chacun avait une image de ce que Dieu devait faire ou devait être, et peu étaient vraiment à l'écoute de ce que Dieu voulait vraiment dire de lui-même. Quand on voit la difficulté que Jésus aura à parler avec les grands prêtres et les scribes de son époque, on comprend qu'il ne suffit pas qu'il y ait une religiosité très développée pour que l'écoute de la parole de Dieu se fasse réelle et profonde. Le roi Hérode est bien loin d'attendre le Sauveur promis à Israël. Il sera terrorisé à l'idée qu'un rival puisse naître, quitte à demander le massacre des innocents. On est dans un monde, on était dans un monde où l'on peut dire qu'il n'y avait pas de place pour Dieu. C'était la force, c'était la cupidité qui semblait régner. Et pourtant, dans ce contexte où, j'allais dire, la puissance de la force et la puissance de la cupidité semblent bien tentants, et on a envie de se résoudre à utiliser les mêmes armes. Si c'est comme ça qu'il faut survivre, allons-y. On sait que ça ne peut pas vraiment durer, ça ne construit pas grand-chose, mais si ça nous permet de survivre, jouons avec les mêmes armes. Mais voilà que, alors qu'on pourrait avoir la tentation de se livrer à ces armes du démon, voilà que le chemin de Dieu trouve un passage. Voilà que de façon inattendue, au sein du peuple hébreu, au sein même de la maison de David, qui avait pourtant apparemment mené le peuple à sa ruine, voilà que la Vierge Marie, la fille d'Israël, écoute la parole de l'ange et dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Voilà qu'elle devient le chemin. Voilà qu'elle devient le chemin où l'humanité devient collaboratrice du dessein de Dieu. Voilà qu'elle est le chemin où l'humanité dit oui à son Seigneur. Non pas comme une espèce de paquet que l'on déplace sans son assentiment. La Vierge Marie dit un vrai et plein assentiment à la volonté de Dieu. Voilà que cette humanité que l'on pensait enfermée, sans possibilité d'ouvrir quoi que ce soit de bonté, d'espérance, s'ouvre au plan de Dieu. Eh bien, la contemplation du oui de la Vierge Marie au jour de l'Annonciation doit être pour nous un élément d'espérance quand nous regardons notre monde et lorsque nous nous disons « J'ai bien envie, moi aussi, de recourir aux mêmes armes que le monde, le mensonge, la violence, la cupidité. » Dieu trouve son chemin. Il y a des cœurs prêts pour accueillir la grâce de Dieu véritable. Il y a des cœurs prêts pour répondre au respect de la dignité de la personne humaine, à la recherche du bien commun, à la solidarité entre les hommes, vus non pas comme des rivaux, mais comme des frères que le Seigneur nous confie. C'est une solennité qui renouvelle l'espérance que nous posons sur le cœur de l'homme. Et parce qu'elle le renouvelle, c'est une chose qui peut vous sembler un peu bizarre, ça veut dire qu'il faut la demander. Vous savez, les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, ce ne sont pas des vertus qu'on peut produire nous-mêmes par notre exercice. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Il faut que Dieu nous la donne et que notre cœur le reçoive. Un peu quand vous faites une infusion. Si on ne vous donne pas votre sachet de thé, il ne se passe pas grand-chose. Vous ne pourrez avoir que de l'eau chaude. Et en même temps, si vous ne faites pas chauffer l'eau, votre thé, on a beau vous donner le sachet, ça ne va pas beaucoup se diffuser. Nous pouvons faire de notre cœur un cœur ardent, mais il faut, Seigneur, que tu nous donnes l'espérance sur l'humanité. Et cette solennité de l'Annonciation est là pour nous dire « Espère et demande la vertu d'espérance que moi, le Seigneur, je veux te donner. » Et il y a un deuxième élément que nous pouvons regarder en cette solennité de l'Annonciation. C'est parfois, on se dit « Mais notre monde est tombé beaucoup plus bas. » Notre monde est tombé beaucoup plus bas. Peut-on encore espérer de Dieu un salut? Peut-on encore espérer de Dieu alors que nous sommes si endurcis? Et là encore, le mystère de l'Annonciation vient nous éclairer. Vient nous éclairer sur la condescendance de Dieu, sur l'abaissement que le Fils de Dieu a consenti pour nous donner le salut. Lui qui est Dieu de toujours à toujours, il est entré dans le temps. Lui qui est le Tout-Puissant, que les cieux, la terre ne peuvent contenir, il s'est fait petit enfant. Lui qui est le roi des rois, il s'est fait serviteur. Et donc nous avons l'affirmation avec la kénose, c'est l'abaissement, l'anéantissement même en grec, du Verbe de Dieu qui se fait chair. Nous avons le signe que Dieu est disposé à chercher l'homme jusqu'au bout. Et que nous sommes appelés là à nouveau à ne pas désespérer en nous disant « Nous sommes allés trop loin, Dieu ne peut plus nous rejoindre. Le Fils de l'homme a voulu nous rejoindre là où nous étions, même si cela demandait la kénose, même si ça demandait cette espèce d'anéantissement de l'incarnation. » Alors frères et sœurs, en cette solennité, demandons au Seigneur de vivifier en nous l'espérance. Et nous aurons un moment tout particulier dans la messe lorsque, je ne sais plus si nous chanterons le credo ou si nous le réciterons, nous allons chanter le credo. Après avoir chanté « Et homo factus est, il s'est fait homme », nous nous arrêterons et nous nous mettrons à genoux. À ce moment-là, demandons tout particulièrement « Seigneur, vivifie-nous dans l'espérance, que nous nous relevions » enrichi de ce don par la grâce du Seigneur pour continuer à proclamer notre foi. Sois béni, Seigneur, de nous révéler qu'au cœur des hommes, il y a un oui qui se prononce et qui ouvre un chemin de salut. Sois béni, Seigneur, d'avoir manifesté que tu étais prêt à descendre aussi bas que nous étions pour nous apporter la vie. Amen.